Si vous jugez encore à propos de me dire un dévot rescuitchat in pacem, je souhaite qu'il retourne entièrement sur vous, car pour moi, je ne saurai plus lorsque c'est de repos ni de paix, ni ce que c'est ni le bien ni le mal. Il faut vivre pour le savoir. Les morts ne savent plus rien. Il est fort inutile de prier pour les morts. Il est fort inutile de s'inquiéter pour eux. Extrait d'une lettre de l'abbé Jean Mélier.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le 7 juillet 1729, un petit groupe de prêtres s'approche d'un village où un de leurs confrères, Jean Mélier, vient de mourir. Il se trouve qu'il vit effectivement dans un presbytère du diocèse de Reims. Ils viennent donc se recueillir devant sa dépouille. Ils entrent dans la chambre mortuaire et l'un d'eux remarque deux lettres posées sur une table. Et sur l'une d'entre elles est marqué « À monsieur l'abbé, point de suspension ». En fait, c'est une lettre qui est destinée à celui qui l'ouvrira. Quelle ne fut pas la surprise quand, en ouvrant la lettre, eh bien, on s'aperçoit que l'abbé est en train de préciser qu'il est athée et qu'il n'a jamais véritablement cru en Dieu. Et qu'effectivement, le christianisme, comme toute religion, serait superstition, erreur, mascarade, illusion, imposture, mensonge. Évidemment, le choc est grand parmi les prêtres. Et puis, il y a une deuxième lettre où l'abbé Jean Mélier précise qu'il a rédigé un mémoire dans lequel il veut expliquer pourquoi il ne croit pas en Dieu et pourquoi il a été finalement, pendant de très longues années, une espèce d'acteur qui a joué au prêtre. Alors, qui est exactement ce Jean Mélier ? Jean Mélier est né en 1664 à Mazerny, qui est un petit village des Ardennes. Il est le fils d'un marchand plutôt aisé, qui est également un petit propriétaire terrien et qui fabrique de la laine. Il a 2-3 sœurs et il a une enfance sans doute sans histoire, unique garçon de cette famille. Ses parents veulent qu'il rentre au séminaire pour devenir prêtre. Et puis le séminaire lui permettra d'avoir un suivi des études. Et ils s'estiment que leur enfant est finalement assez intelligent et donne des dispositions pour justement ce type d'études. Donc, il entre au séminaire de Reims en 1684. 4 ans plus tard, le 10 décembre 1688, il est ordonné prêtre, puis il est nommé curé d'Étrépigny, un village près de son village natal de Mazerny, qui se situe pas très loin de Sedan et de Charleville-Mézières, et qui dépend de l'archevêché de Reims. Le jeune curé, il a alors 24 ans, a eu la chance de rester dans cette paroisse pendant très longtemps. Il était à la fois curé d'Étrépigny et puis il devait s'occuper d'une paroisse à 3 km, la paroisse de Balève. Il y est resté pendant un tout petit peu plus de 40 ans, ce qui est rare, mais qui n'est pas exceptionnel pour le clergé de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il jouissait d'un revenu global de 600 livres, ce qui lui permettait de vivre très convenablement. Alors évidemment, après la découverte de ces deux lettres et du mémoire dont je vais vous reparler, on s'est intéressé un peu de savoir, mais enfin, comment était-il vis-à-vis de ses paroissiens. Il a été ensuite présenté par ceux-ci comme un homme affable, qui était prêt à rendre service quand il le fallait, mais très discret, qui ne se mélangeait pas facilement et qui, disait-on, avait régulièrement des gouvernantes un peu jeunes qui venaient au presbytère. Des fois, 18 ans, 20 ans, ceux qui faisaient courir quelques bruits même si on les présentait comme des cousines ou des nièces. Ceci d'ailleurs valut à l'abbé Mélier des réprimandes en 1726 de son archevêque, Monseigneur de Mailly, archevêque de Reims. Mais il n'en resta pas moins qu'il resta jusqu'en 1729, jusqu'au moment où il mourut, le curé donc de cette commune. Alors maintenant, il s'agit tout de même de s'intéresser à ce testament, document étonnant, où l'abbé explique pourquoi il ne convient pas de croire en Dieu. Ce testament de l'abbé Mélier a été rédigé entre 1716 et jusqu'à sa mort en 1729. Il l'a rédigé de manière secrète, mais enfin de manière assez régulière. Et dans ce texte, il entend démonter la question de la foi et apporter la preuve que toutes les divinités et toutes les religions sont vaines et fausses. Le document se présente en 8 parties, avec chaque fois une petite introduction pour indiquer le but poursuivi et résumer ses convictions. Alors, que trouve-t-on dans ce document? Eh bien, premier thème, c'est que la religion est une invention humaine et que les grands maux de la vie viennent de l'adoration de fausses divinités, que d'ailleurs les puissants utilisent à leur profit. Ensuite, il y a un deuxième thème où il s'agit de démontrer que la foi est une créance aveugle et qu'elle n'est qu'un principe d'erreur, d'illusion, d'imposture, et estime, dans ce texte, qu'il est finalement facile de réfuter l'ensemble des bases de la foi. Le troisième thème tient à parler de la vanité, de la fausseté des religions, et sur lesquelles est basé en particulier, mais pas seulement, le christianisme. Ensuite, s'appuyant sur les textes des Écritures, il tient à en montrer les promesses et les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament qui, prises dans leur sens littéral, mais également dans leur sens allégorique, sont, la plupart du temps, fausses et vaines. Ensuite, il s'agit de critiquer aussi la doctrine et la morale de la religion chrétienne. Le sixième thème tend à montrer que la religion chrétienne est responsable d'abus et à encourager la misère et l'oppression. Le septième thème entend montrer que l'opinion des hommes touchant à la prétendue existence de Dieu est fausse et que finalement les hommes se créent quelque chose qui les dépasse pour se rassurer tout simplement. Et enfin, la huitième et dernière preuve entend montrer qu'il n'y a pas d'immortalité de l'âme. Donc vous l'avez compris, il s'agit bien quand même d'un réquisitoire extrêmement fort. Il se trouve que ce testament a été recopié. Il a été recopié et on en trouve des traces, au moins de 3 copies, dont une se trouvait en 1732, donc 3 ans après la mort de l'abbé, en possession de Germain-Louis de Chauvelin, qui était avocat général au Parlement de Paris, garde des Sceaux de Sa Majesté et secrétaire d'État aux Affaires étrangères, un homme de confiance du cardinal Fleury, qui était le principal ministre du jeune Louis XV. Il y a aussi une autre version qui, plus tard, se retrouvera chez quelqu'un que vous connaissez tous, Monsieur Voltaire. Effectivement, en 1762, Voltaire a utilisé le mémoire de l'abbé Mélier, d'ailleurs en retouchant quelque peu le texte et en mettant des extraits qui circulaient déjà et qu'il présenta, en se gardant bien d'ailleurs d'avouer qui était l'auteur de cette opération, de transformation quelque peu du texte et qu'il a appelé lui-même le testament de l'abbé Mélier. Mais il faut bien voir que cet abbé athée a été aussi une source d'inspiration pour bien des penseurs marxistes du XIXe siècle et du XXe siècle, et aujourd'hui, dans les milieux de la libre pensée, il apparaît comme un des penseurs importants du siècle des Lumières. Alors, qu'est devenue quand même la dépouille de cet abbé Mélier? Parce que, évidemment, nous avons affaire à un être un peu exceptionnel, parce que tout le monde s'accorde parmi les historiens qui ont étudié la période pour dire que l'immense majorité des clercs du début du XVIIIe avaient été bien formés dans les séminaires et que c'était des hommes, je dirais, de conviction. Mais l'abbé Mélier, évidemment, ne répond pas à cette définition. Alors il s'agissait de savoir, est-ce qu'on peut le mettre en terre chrétienne? Et en fait, on a trouvé une solution. Mais c'est-à-dire que sa dépouille n'a pas été placée dans le cimetière chrétien de sa paroisse, mais on l'a enterrée de manière très anonyme dans le grand parc du château local, où finalement il a un peu disparu de la mémoire. Mais vous voyez, cet homme, l'abbé Jean Mélier, est représentatif de cette partie à la fois peut-être de libertins, de libres penseurs, qui ont fait... non pas la majorité de la pensée du siècle des Lumières, mais qui ont indéniablement participé à cette vivacité intellectuelle, même si évidemment, pour les chrétiens, on peut la contester.